Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de Métropolez-vous, notre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité de la métropole toulousaine. Ce numéro va être l'occasion de poursuivre la série inaugurée il y a 3 semaines, dédiée à la flore et la faune du territoire métropolitain. Nous avons consacré une première émission à la flore. La semaine dernière, nous avons fait un état des lieux des populations d'oiseaux à Toulouse et dans les communes qui entourent la ville rose, certaines très urbaines, d'autres présentant des espaces beaucoup plus sauvages, habités par une faune plus riche qu'on pourrait le croire. Et à ce propos se pose la question de la cohabitation de l'homme urbain avec la faune sauvage et plus largement avec la nature en ville. On sait que la préservation de la nature, la protection des animaux, leur bien-être sont une vraie préoccupation pour de nombreux citoyens à notre époque. Cela étant, connaissons-nous suffisamment cette faune sauvage pour bien œuvrer à sa préservation et à sa protection ? C'est tout le sujet de cette émission que j'ai intitulée « Nature en ville, comment cohabiter avec la faune sauvage dans la métropole toulousaine ?» Lors du précédent numéro de Métropolez-vous, je recevais Mathieu Bergès, chargé d'études ornithologiques à Nature en Occitanie. Je reçois aujourd'hui un autre membre de cette association, Michael Nicolas, éducateur naturaliste et coordinateur du pôle médiation faune sauvage à Nature en Occitanie. Bonjour et merci d'avoir accepté d'être l'invité de cette émission.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Comme ce fut le cas pour Mathieu Bergès, c'est aussi une première pour vous dans cette émission et même à Radio Présence. Je vais donc vous demander d'expliquer en quoi consistent vos activités et vos missions personnelles au sein de Nature en Occitanie.
Alors donc moi, mon métier, c'est éducateur naturaliste. En fait, j'arrive à l'interface entre le métier des naturalistes pour qui le métier, c'est d'améliorer la connaissance sur la biodiversité et la vulgarisation, le grand public. Donc moi, mon métier, c'est vraiment de vulgariser la connaissance naturaliste pour la rendre accessible à tout à chacun, que ce soit des enfants à la maternelle, à l'école primaire, au collège ou au lycée, jusqu'au grand public, aux élus, également des chefs d'entreprise et les personnes en situation de handicap, parce que je réalise également des actions de médiation auprès des personnes en situation de handicap.
Est-ce que vous avez tout de même des spécialités dans le domaine de la faune sauvage, des espèces qui vous intéressent plus particulièrement, vous à titre personnel bien sûr?
Oui, alors moi c'est vrai que mon métier requiert d'avoir une connaissance assez généraliste sur toutes les familles d'espèces, mais j'ai une sensibilité particulière pour l'herpétologie, donc pour les reptiles et les amphibiens, des espèces qui ont un attrait un peu exotique pour le grand public, qui sont parfois mal aimées et surtout mal connues, et j'avoue que cette appétence de faire de la vulgarisation sur ces espèces mal aimées, mal connues, est quelque chose qui m'anime beaucoup.
Quand on parle de nature en ville et de faune sauvage dans l'espace urbain, de quoi parle-t-on précisément? De quelles espèces et de quels habitats?
Alors souvent, les gens considèrent la ville comme un espace qui est plutôt stérile, dans lequel seul l'homme est présent et seul l'homme doit être présent. Or, la ville, c'est un écosystème beaucoup plus complexe que ça, où l'homme est un élément, mais pas le seul être vivant. Et c'est un écosystème dans lequel on va retrouver des proies, des prédateurs, et tout un schéma d'interrelation qui va permettre vraiment de parler d'un écosystème. Si on considère la ville au niveau d'une photographie aérienne, par exemple, on va très vite se rendre compte que la ville n'est pas constituée que de l'habitat humain, mais également de milieux naturels ou semi-naturels, parfois sculptés par l'homme. Et en l'occurrence, les villes, en moyenne en France, c'est à peu près 40% d'espaces naturels. Et dans ces 40%, on a 20% qui sont dans des jardins privés. Donc notre espace, celui qu'on pense notre espace, est bien plus que notre espace, mais un espace partagé par plein d'autres espèces, des oiseaux. Un tiers des oiseaux de métropole qui fréquentent la ville, mais également des mammifères, dont certains qui ne sont présents quasiment qu'en ville, insectes, etc., pour lesquels c'est important de porter un regard aujourd'hui que très peu de gens prennent le temps d'observer.
Si on prend l'exemple de métropole toulousaine, il y a quand même un espace qui, moi, me semble encore très sauvage, c'est la Garonne et ses abords, par exemple.
Exactement.
Et quelques affluents.
Oui, on a la chance sur la métropole toulousaine d'avoir plusieurs cours d'eau, dont la Garonne qui traverse Toulouse et qui, pour nous, est considérée comme une richesse paysagère, mais aussi une richesse dans l'histoire en termes de ressources en eau, ressources en gravier, ressources en poissons. Mais pour beaucoup d'animaux, c'est un corridor écologique, c'est un couloir qui permet de passer d'une ville à l'autre, soit à travers l'eau, pour les espèces aquatiques ou semi-aquatiques, soit grâce aux abords de ce fleuve ou de ces rivières, qui sont ce qu'on appelle des ripisylves, donc des corridors paysagers paysagers plutôt arborés ou herbacés qui vont utiliser ces animaux pour se déplacer.
Et puis, il y a un autre espace auquel on ne pense pas, mais c'est le canal du Midi et le canal latéral aussi.
Oui, bah, notamment justement par rapport à cette ripisylve, donc tous ces milieux terrestres qui longent ces milieux aquatiques. Voilà, le canal du Midi, c'est aussi un couloir de migration, c'est aussi un couloir de déplacement, notamment des oiseaux qui fréquentent les cavités, parce que les grands platanes qui ont été plantés au bord du canal du Midi sont très riches en cavités, de par leur grand âge. Et donc, pour le coup, ça permet aux espèces de se déplacer.
Quel type de faune sauvage, quelles espèces ou familles d'espèces sauvages habitent l'espace urbain à Toulouse et autour ?
Alors en ville, on va retrouver à peu près tous les représentants des familles d'animaux qu'on peut rencontrer un peu partout, même en campagne. Tout le monde a déjà croisé des oiseaux, bien évidemment, à Toulouse. Alors sont très bien représentés les petits passereaux qui sont assez généralistes, donc les petits granivores qui sont nourris aux mangeoires que les gens observent assez facilement. Et puis des oiseaux un petit peu plus opportunistes, d'ailleurs souvent un peu mal aimés par les gens, tels que le goéland, tels que la pie, le geai, les corneilles, qui sont des oiseaux qui ont appris à vivre avec l'homme. On appelle ça des espèces commensales et qui tirent profit des activités de l'homme pour se nourrir notamment. Après, dans les autres cortèges d'espèces, voilà, on va retrouver des mammifères. Tout le monde connaît le hérisson pour en avoir déjà croisé dans son jardin. Donc ça, c'est plutôt l'espèce bien aimée. Et puis des espèces un peu moins bien aimées, comme le rat sur mulot, comme le ragondin qu'on peut voir dans le canal du Midi, ou d'autres espèces un peu plus grosses, comme le chevreuil ou le sanglier, que les gens s'attendent un petit peu moins à voir en ville et qui pourtant sont bien présentes parce qu'elles utilisent ces couloirs de circulation.
Vous parlez de mammifères, est-ce que le renard aussi est présent
oui.
À Toulouse ou autour ?
Bien sûr, et j'ai même envie de dire heureusement qu'il est présent. Parce que Exactement, c'est un régulateur, c'est un auxiliaire de l'agriculture, mais pas que de l'agriculture. C'est un consommateur de rongeurs, notamment, qui peut manger jusqu'à 600 rats et rongeurs dans une année. Donc c'est un prédateur intéressant qui trouve dans la ville notamment une ressource alimentaire. Alors c'est pas forcément les poubelles qui viennent vider, contrairement à ce qu'on peut voir dans les presses et autres, mais c'est surtout les rongeurs qui vont venir manger. Également, il trouve en ville une zone de refuge, là où il n'est pas chassé, et là où il va pouvoir être le moins dérangé possible. Donc la nuit, la ville appartient à cette faune qui va venir chasser, qui va venir trouver à manger dans notre...
Autre régulateur des rongeurs, les rapaces.
Oui, les rapaces. Alors en métropole toulousaine, on a la chance d'avoir plusieurs rapaces qui sont des régulateurs notamment de rongeurs, mais aussi d'autres espèces que l'homme aime moins, comme les pigeons. Certains l'appellent le rat volant, le pigeon. Pigeon bisé domestique, le pigeon des villes. Et donc, à Toulouse, notamment, on a plusieurs espèces de rapaces. On trouve des éperviers, on trouve le faucon cresserelle, qui en voie d'augmentation, en l'occurrence, sur l'agglomération toulousaine, et l'emblématique faucon pèlerin, qui est le chasseur de pigeons par excellence, dont on a au moins deux couples sur l'agglomération toulousaine, et qui permettent de réguler soit les populations de rongeurs, soit des populations de pigeons.
Alors, vous avez parlé des rapaces diurnes, mais aussi oui. Quelques rapaces nocturnes, notamment la chouette hulotte.
Hein. Oui, la chouette hulotte. Alors, la chouette hulotte, sur Toulouse, on a la chance d'avoir des espaces verts qui sont assez grands et notamment arborés avec des grands parcs, avec des vieux arbres. Et les rapaces nocturnes telles que la chouette hulotte aiment bien fréquenter ces parcs urbains avec des grands arbres. Et notamment, nous, l'association est située pas très loin du Grand Rond. Et donc, fréquemment, on entend la nuit les chouettes hulottes qui chantent au Grand Rond. Et parfois, même, on arrive à retrouver même des poussins que les gens retrouvent au sol. Ils sont un petit peu inquiets pour leur devenir. Et donc, on leur donne quelques conseils pour les replacer.
Vous avez évoqué les reptiles qui vous passionnent. Mmh. Est-ce que nous avons des reptiles en espace urbain à Toulouse et dans la métropole toulousaine de manière générale ?
Oui, alors les reptiles sont plutôt bien représentés. La ville, même si c'est un écosystème qui est tout à fait fonctionnel avec des proies, des prédateurs, etc., c'est aussi un habitat qui est riche en obstacles. Mais malgré tout, les reptiles sont plutôt bien représentés avec des espèces qui sont assez tolérantes à la présence de l'homme et aux aléas que peut connaître la vie dans la ville. Donc dans les espèces qu'on va retrouver, notamment des couleuvres. En France, notamment en région toulousaine, on a plus de données vraiment actuelles de vipères depuis très longtemps, depuis les grands remembrements, etc. Donc on va retrouver principalement la couleuvre verte et jaune, qui est l'espèce la plus proche de l'homme qu'on peut retrouver dans les jardins à Toulouse. On va retrouver bien évidemment le lézard des murailles, le petit lézard qui fréquente nos murs dans nos jardins. Et un reptile aussi qui depuis quelques dizaines d'années fréquente de plus en plus la région toulousaine, c'est la tarente de Maurétanie. C'est une sorte de gecko qui est présent en France naturellement sur le pourtour méditerranéen, mais qui a profité du changement climatique et de l'introduction aussi de certaines plantes méditerranéennes comme les palmiers et les oliviers pour être introduit dans nos jardins. Et puis on le voit de plus en plus aujourd'hui, donc les soirs, si vous allez vous balader dans les rues toulousaines, autour des enseignes, on voit ce petit lézard qui est en chasse d'insectes qui viennent voler autour des enseignes.
On a parlé de la Garonne tout à l'heure. Alors on sait qu'il y a des oiseaux piscivores dessus. Mmh. Hein, il y a aussi les goélands, les aigrettes, les hérons, mais les poissons, les amphibiens. Quelle est la situation aujourd'hui ?
Alors, sur les zones aquatiques, alors on peut différencier de deux façons les milieux aquatiques, donc la Garonne, donc les milieux de pleine eau dans lesquels, en effet, on va avoir des poissons. On a encore quelques saumons qui passent dans la Garonne malgré quelques obstacles qu'ils peuvent rencontrer.
Qui sont comptés au Bazacle, au passage.
C'est ça, voilà. Obstacles physiques tels que la chaussée du Bazacle, mais parfois aussi quelques obstacles, on va dire, météorologiques dus notamment aux sécheresses avec des déconnexions de milieux aquatiques ou tout simplement une qualité de l'eau qui n'est plus propice à leur déplacement. Donc en termes de milieu aquatique, sur les poissons, on a forcément une baisse de certaines populations de poissons, mais on a aussi une augmentation de certaines espèces qui sont un petit peu plus tolérantes ou qui vont trouver dans les eaux de la Garonne, notamment du fait des herbiers de renoncules qu'on a de plus en plus avec le changement climatique, qui ont trouvé des zones de frais qui sont intéressantes et qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent. Chez les amphibiens, c'est un petit peu différent. Donc eux, ils n'aiment pas les milieux vraiment aquatiques, mais plutôt les zones humides, c'est-à-dire des zones où il y a une interface entre la terre et l'eau qui est relativement constante ou temporaire. Et ces zones humides, en métropole toulousaine, comme partout en France, elles ont tendance à disparaître de fait du changement climatique, mais aussi parce qu'on, pendant longtemps, on les a considérées comme des milieux insalubres, on les a asséchées. Et aujourd'hui, il faut que ces espèces trouvent des habitats de substitution pour pouvoir se reproduire. Ça peut être un bassin d'orage, notamment, dans lequel ils vont se réfugier pour se reproduire. Voilà, les amphibiens, c'est un peu les oubliés.
Qu'est-ce qu'on a ici ? On a des rainettes, enfin, je parle des grenouilles, on a des crapauds.
Alors, on a plusieurs espèces. Dans la famille des crapauds, on a plusieurs espèces de crapauds. Donc, le crapaud épineux, qu'on appelait avant crapaud commun, qui est le plus emblématique, le plus facile à rencontrer dans nos jardins, parce qu'il utilise plutôt le milieu terrestre sur une grande partie de son cycle de vie. Mais ensuite, on a des crapauds un petit peu plus spécialisés, comme le crapaud calamite, qui lui va se reproduire dans des zones humides temporaires, telles que sur le parc de la Grande Plaine, avec des zones d'inondation où il va pouvoir se reproduire. Et puis, on a aussi un tout petit crapaud qui a un chant très flûté qu'on va retrouver parfois en centre-ville. Et ça, c'est le crapaud accoucheur. Et le crapaud accoucheur, lui, c'est une espèce qui est très terrestre, qui a besoin de toutes petites zones humides pour aller se reproduire. Le mâle porte les œufs sur les pattes. Et quand on a la chance de le croiser ou de l'entendre en ville, ça nous permet de savoir qu'il y a encore quelques zones humides qui existent probablement chez des particuliers.
Les insectes, quelle est la situation ?
Alors les insectes, il n'y a pas beaucoup d'études aujourd'hui qui sont menées sur les insectes en ville, au-delà de tout ce qu'on a pu entendre sur l'attractivité des villes, notamment par rapport à l'abeille domestique. On a connu beaucoup de campagnes d'implantation de ruches sur les toits des entreprises qui ont pu avoir un impact tout à fait néfaste sur l'entomofaune des villes, parce que quand on met 40 000 abeilles d'un seul coup sur un toit de ville, on imagine que ces 40 000 abeilles vont rentrer en compétition avec les autres abeilles sauvages qui sont présentes. Faut pas oublier qu'en France, on a à peu près 1000 espèces d'abeilles, dont une qui est l'abeille domestique, qui est la seule qui est vraiment cultivée, élevée par l'homme. Si on s'intéresse aux insectes en ville, ce qui est très intéressant dans la ville, c'est qu'on a un cortège floral pour les pollinisateurs qui est très important et beaucoup plus étalé que ce qu'on va trouver en campagne, avec des fleurs parfois même en plein hiver, alors qu'en campagne, on a des fois des floraisons qui sont un petit peu plus concentrées sur les périodes de floraison des espèces agricoles. Donc en ville, on a de plus en plus d'insectes diversifiés, notamment de par cette diversification florale, mais aussi parce que les gens et les collectivités ont pris aussi conscience que la gestion des espaces verts ou des espaces privés dans les jardins pouvait avoir un impact sur cette entomofaune, et notamment, on aborde de plus en plus des questions de gestion différenciée, décalage de tonte, laisser des zones en herbe haute un petit peu plus longtemps pour permettre aux pollinisateurs de faire leur cycle de vie, et puis aussi de nourrir des oiseaux derrière qui sont insectivores et qui vont en avoir besoin.
Comment le nombre de toutes ces familles d'espèces évolue-t-il depuis les 10 dernières années ? Est-ce que c'est disparate suivant les espèces ou est-ce qu'on constate une baisse ou une hausse ?
Alors c'est difficile de dire par famille si on a une augmentation ou une diminution, parce qu'en fait il faut plutôt considérer, on va dire, des niches écologiques. Certaines espèces sont très spécialistes et ont besoin de conditions très particulières pour se développer. D'autres, à l'inverse, vont être plutôt très généralistes et vont trouver de la nourriture un petit peu partout. La tendance va plutôt dans le sens que les espèces qui sont généralistes ont tendance à se développer et les espèces qui sont spécialistes vont plutôt diminuer.
Est-ce qu'on a pu mesurer d'ailleurs les impacts des activités humaines sur l'évolution du nombre et de la santé des populations de certaines espèces dans la métropole toulousaine ? En fait, ma question, est-ce que l'urbanisation, qu'on peut constater, peut avoir des effets favorables sur certaines espèces là où elle aura un effet défavorable pour d'autres ?
Oui. Alors, un exemple qui me vient en tête et qui est assez parlant, c'est la pollution lumineuse. Quand on parle de ville, nous, on a eu la chance d'adapter la luminosité de nos villes à notre mode de vie. Et donc, pour le coup, on éclaire les villes la nuit. cette pollution lumineuse, elle va avoir un impact sur beaucoup d'espèces. Je veux prendre deux exemples, les exemples des insectes et les exemples des chauves-souris, donc les chiroptères. Et donc chez les chiroptères, donc les chauves-souris, on a des espèces qui attendent vraiment une luminosité très faible pour pouvoir sortir chasser. Donc par exemple, le grand rhinolophe, c'est une espèce qui aime chasser que dans des milieux qui sont très, très sombres. À l'inverse, la pipistrelle commune, qui est l'espèce la plus commune qu'on puisse rencontrer en ville, qui vit sous nos toitures, derrière nos volets, elle est assez tolérante à la présence de lumière. Donc la ville va avoir tendance à favoriser la pipistrelle et défavoriser le grand rhinolophe. Et chez les insectes, c'est un petit peu pareil. On a certains insectes qui sont plutôt tolérants à la lumière, d'autres moins. Mais pour certains insectes, la lumière va être considérée comme un piège, parce que beaucoup d'insectes, notamment les papillons de nuit, se dirigent et ont un cycle orienté avec la lumière de la lune. Et en l'occurrence, bah, autant de réverbères qui sont présents dans une rue, ça va être autant de lunes qui vont être des repères visuels pour se déplacer. Et l'attractivité de ces lumières va parfois conduire à des épuisements et détourner ces insectes de leur cycle de vie.
Ah, il y a une autre évolution qui, il me semble, peut avoir aussi un effet sur la nature, sur l'évolution des populations de la faune sauvage, c'est l'évolution des modes de transport. Le fait que, de plus en plus, dans les grandes villes, on va privilégier les modes de transport, de déplacement dits doux, par rapport à la voiture. Donc, est-ce que la baisse de la voiture et l'augmentation d'utilisation du vélo ou du recours à la marche peuvent avoir un effet favorable sur la nature et sur quelles espèces en particulier?
Alors complètement, de manière assez catastrophique et pour ne pas tomber dans de la nostalgie non heureuse, on va parler de la période du Covid. Pendant le Covid, on s'est très vite aperçu que les animaux circulaient beaucoup plus, que les oiseaux s'exprimaient beaucoup plus et beaucoup plus facilement. Donc en effet, on peut imaginer que les modes de déplacement doux ont tendance à favoriser, on va dire, ces espèces. Il y a moins de compétition par rapport au bruit et il y a moins de risques de collision avec les espèces.
Le hérisson, par exemple.
Voilà, le hérisson, il peut parcourir jusqu'à 10 km par nuit. Et en l'occurrence, il a un territoire qui est très grand, qui peut aller entre 15 et 50 hectares en fonction de ce qu'il va trouver sur son territoire. Mais c'est une espèce qui se déplace beaucoup. Et vu que cette espèce se déplace beaucoup, bah, si elle rencontre moins de véhicules, elle aura moins de chances de se faire écraser.
On va parler maintenant de vos constats et de vos préconisations à Nature en Occitanie concernant la cohabitation avec la faune sauvage en ville. Alors, qu'est-ce que vous constatez et qu'est-ce que vous préconisez?
Alors, nous, depuis 2014, on coordonne un pôle de médiation faune sauvage, qui est une action aujourd'hui subventionnée en partie par la région et par l'État, et dont l'objectif est de pouvoir répondre aux interrogations et aux craintes des gens par rapport aux espèces qu'ils retrouvent dans leur jardin, donc dans leur territoire qui parfois est partagé avec la faune sauvage. Et donc, du coup, nous, l'objectif, c'est de pouvoir renseigner les gens autant sur une identification d'une espèce qu'ils ont vue et qu'ils pensent normale ou pas normale dans leur jardin, que sur une cohabitation parfois difficile. Quelqu'un qui a vu un serpent dans son jardin et qui, d'emblée, est inquiet par rapport à ses enfants, ses animaux de compagnie, mais aussi répondre à des questions pour des gens qui auraient constaté un animal qu'ils pensent être en détresse et pour lequel ils voudraient venir en aide ou que quelqu'un vienne en aide pour que cet animal continue de vivre dans cet espace-là.
Votre mission consiste entre autres à des actions de médiation. Est-ce que ça consiste entre autres à battre en bref des croyances, des clichés ou des idées reçues que peuvent avoir les citoyens sur certains aspects de la faune sauvage? Quels sont ces clichés et ces idées reçues qui circulent le plus?
Alors complètement. Alors on a des clichés, des idées reçues qui vont à l'encontre des animaux parce que cet animal fait peur, cet animal est très différent de nous ou qu'il y a beaucoup de rumeurs alimentées sur ces espèces. Je vais parler d'un groupe qui m'anime particulièrement, c'est les serpents. Beaucoup de gens ont peur des serpents, on a cette crainte un peu innée et historique des serpents avant qu'on soit des mammifères un peu gros dans notre écosystème. On a été mangé par des reptiles qui étaient bien plus gros que nous à l'époque des dinosaures notamment. Donc on a gardé un petit peu cette peur de ces espèces-là. Et puis ce sont des espèces aussi qui se cachent et qu'on retrouve souvent par surprise. Et donc cet effet de surprise, les gens en ont peur. Donc les serpents sont vraiment victimes de préjugés et d'idées fausses qui sont assez tenaces. Et aujourd'hui, les gens ont tendance à détruire ces espèces.
Alors qu'elles sont protégées.
Alors qu'elles sont toutes rappeler, hein. Intégralement protégées.
Ça peut coûter très cher si vous tuez une vipère et que vous êtes pris sur le fait, ça peut coûter très cher, ouais. Je précise.
3 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende, en effet, le fait de ne serait-ce que manipuler une couleuvre, par exemple. Et donc, les gens ont tendance à passer à l'acte. Alors, l'homme est l'espèce humaine qui est la seule à détruire un animal avant même de penser à fuir. Et donc, notamment dans l'espace urbain, c'est ce qui peut se passer. Donc, nous, quand on a des gens qui ont ce genre de crainte, eh ben, on les conseille. Déjà, on les renseigne sur le cycle de vie de cette espèce. Pourquoi elle est présente dans votre jardin à cette période de l'année et quels sont les véritables risques de cohabiter avec cette espèce-là. Et généralement, quand les gens connaissent l'espèce, connaissent son nom, eh bien, il y a une relation différente qui se crée. Plus on connaît, plus on est amené à apprécier ou en tout cas à pouvoir cohabiter avec. Donc il y a beaucoup de rumeurs et d'idées fausses qui circulent là-dessus. Et puis après, il y a d'autres rumeurs ou d'idées fausses par rapport à des espèces qu'on a envie d'aider, par exemple le hérisson ou les oiseaux, qu'on nourrit à grands coups de graines à graisse ou alors de croquettes pour chats. Et là, pour le coup, bah, il faut aussi remettre la vérité sur certaines choses et replacer ces espèces dans leur cycle de vie naturel et montrer que l'assistance ou l'assistanat de l'homme n'est pas quelque chose d'obligatoire pour préserver ces espèces-là.
En parlant de nourrissage qu'il faut absolument éviter, le pain surtout, ne pas donner de pain aux oiseaux.
Et non, le pain est un produit transformé. En l'occurrence, pour nous, il n'est pas forcément bon non plus de manière abusive. Et le pain, c'est quelque chose qui est très riche en glucides. Les glucides ne sont pas dans la base de l'alimentation des animaux sauvages, en tout cas mammifères, oiseaux à qui parfois on peut donner du pain. Et en l'occurrence, c'est aussi un aliment qui va gonfler dans l'estomac des animaux et qui va entraîner des carences derrière. Donc non, surtout pas le pain.
Les pouvoirs publics, les élus, vous avez affaire à eux. Quel discours vous leur tenez sur cette cohabitation avec la faune sauvage? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils vous entendent, qu'ils vous écoutent?
Alors, on travaille depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, notamment avec la mairie de Toulouse, mais aussi avec d'autres communes de la métropole qui font appel à nous parce qu'ils ont besoin d'être outillés ou de sensibiliser les citoyens à une meilleure connaissance de la nature. Donc là, pour prendre un exemple notamment très local, moi j'interviens auprès de la mairie de Toulouse et notamment auprès des équipes de jardiniers pour mieux prendre en compte le hérisson dans la gestion des jardins. Et je rencontre des publics qui sont vraiment très intéressés, très techniciens et qui ont envie de bien faire. Et donc les élus ont également envie de bien faire. Et donc on arrive à mettre en place des choses comme la gestion différenciée ou même la création de passages à hérissons dans les jardins toulousains pour favoriser la circulation de la faune. Mais il faut se rendre compte qu'en fait, les élus, aujourd'hui, ne sont pas forcément outillés. Ils n'ont pas la connaissance de tout, mais qu'on peut leur proposer un accompagnement pour justement soit parler mieux aux citoyens, soit leur donner des billes pour pouvoir résoudre certaines solutions pour lesquelles ils sont amenés à intervenir. On a l'exemple des pigeons, la régulation des pigeons dans Toulouse ou la régulation des rats dans Toulouse. Donc on entend souvent, on voit souvent des articles dans la presse sur cette régulation et les actions qui sont mises en place par les élus ou par les collectivités pour le faire. Alors si on replace un peu ces animaux dans l'écosystème, les rats sur mulot, en l'occurrence, qui sont les rats qui sont présents en ville, ils mangent à peu près sur l'échelle de l'agglomération toulousaine 25 tonnes de déchets organiques par an. 25 tonnes de nos poubelles, de ce qu'on va jeter en déchets alimentaires, etc., sont gérés par les rats. Donc on pourrait se dire que finalement, c'est plutôt un auxiliaire de la ville plutôt qu'un nuisible. Et bien aujourd'hui, les municipalités ont essayé plusieurs choses pour réguler ces populations de rats qui sont très mal vues par l'homme, hein, de partout l'historique qu'on a là-dessus. Et de plus en plus, on voit des décisions qui sont prises pour une régulation naturelle, c'est-à-dire installer des sites de nidification ou favoriser des habitats pour les prédateurs de ces rats. Donc les campagnes de piégeage ou d'empoisonnement sont de plus en plus bannies, et fort heureusement pour tout le monde, au profit des campagnes d'éradication plutôt naturelles et une lutte avec des services rendus par la nature.
Vous l'avez dit, hein, votre mission consiste aussi à rassurer les citoyens, à les conseiller lorsqu'ils croisent un animal qu'ils supposent dangereux ou lorsqu'ils constatent sa présence dans leur maison ou propriété. Aussi lorsqu'ils ont affaire à un animal qui semble en détresse ou qui est malade ou qui est blessé. Comment vous intervenez? Est-ce qu'on peut vous contacter directement, par exemple? Est-ce que c'est vous qu'il faut contacter directement?
Alors nous, le pôle de médiation faune sauvage, il se pose en interface pour le grand public qui nous sollicite et nous, on réoriente ce grand public vers les structures qui sont spécialisées en fonction de la situation. Donc les gens peuvent nous contacter directement. Donc sur notre site internet, on a toutes les infos sur le pôle de médiation faune sauvage, soit par téléphone, soit par mail. Et ensuite, on leur demande généralement une photo pour se rendre compte de l'espèce qu'ils ont trouvée, mais également de l'état de l'espèce qu'ils ont trouvée. On s'aperçoit que très généralement, les gens qui nous envoient une photo et le nom de l'espèce qui va avec, le nom et la photo ne correspondent pas. Donc déjà, on donne des informations là-dessus. Et ensuite, en fonction de l'état de l'animal, on va donner des conseils, soit de ne rien faire, parce que dans la majorité du temps, il n'y a rien besoin de faire, soit on va orienter, on va donner des conseils plutôt de premiers soins et orienter vers des partenaires si le cas le nécessite. En l'occurrence, nous, on n'est pas un centre de soins. On n'a pas la compétence vétérinaire, mais par contre, on travaille très bien avec des centres de soins et des vétérinaires même relais auprès de qui on peut envoyer les gens. Par exemple, on travaille avec l'école vétérinaire de Toulouse et notamment la clinique Faune Sauvage avec laquelle on est en échange très régulièrement entre mars et novembre, donc sur la période où on est le plus concerné par des sollicitations. Et donc, ils accueillent des animaux suite à nos conseils qu'on peut donner aux gens. Et donc, nous, on essaie de faire un peu le tri. quand les gens nous sollicitent parce qu'ils ont trouvé un hérisson en plein jour et qu'ils ont vu partout sur Internet que c'était pas normal de trouver un hérisson en plein jour, nous on les rassure, c'est normal de trouver un hérisson en plein jour, il n'est pas forcément en danger. S'il n'a pas de particularité sanitaire ou clinique qui nous mette en alerte, il faut le laisser tranquille. Et de par ce filtre, eh ben, on évite à des hérissons de se retrouver dans des cliniques sans qu'ils aient besoin de l'être.
Ah, il y a autre chose qui peut arriver assez souvent au printemps, c'est de tomber sur un oiseau qui est tombé du nid. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là ?
Alors ça va dépendre des espèces et de l'état de l'oiseau qui est tombé du nid. Généralement, les gens veulent sauver ces oiseaux qui sont tombés du nid et la première chose qu'ils vont faire, c'est le ramasser, le ramener chez eux, essayer de le nourrir, notamment avec du pain, et c'est vraiment contre-indiqué. Donc nous, la première chose qu'on va faire, c'est déjà, encore une fois, de demander une photo pour savoir quelle est cette espèce et en fonction de l'état de l'oisillon. Si l'oisillon est tombé du nid, qu'il a un peu de duvet, qui commence à avoir des ailes sur les plumes, le conseil qu'on va donner, c'est tout simplement de le remettre dans l'arbre au-dessus duquel il était tombé, parce qu'il n'y a pas mieux placé que ses parents pour continuer à l'élever. Souvent, ces oiseaux sont un petit peu en phase de découverte du territoire, en phase d'émancipation, et ils vont bouger, et pas de chance, ils ont loupé leur premier envol, et on va leur donner une deuxième chance en les mettant un petit peu...
En tout cas, il faut le mettre en hauteur. Hein,
voilà, en hauteur. Alors, en hauteur, notamment pour les préserver des prédateurs, et un des prédateurs les plus importants qu'on puisse avoir en ville, c'est le chat. Oui. Voilà, donc on les préserve de ça. Juste pour terminer sur cet aspect-là, la crainte et souvent la légende urbaine qui court, il ne faut pas toucher un oiseau parce qu'on risque de l'imprégner
non.
de notre odeur.
Non, ça c'est pour les mammifères, pas pour les oiseaux.
Exactement, c'est pas pour les oiseaux, c'est pour les mammifères. Donc aucun risque à toucher un oiseau. Par contre, on le remet dans le milieu naturel le plus rapidement possible. Surtout, on ne le garde pas chez soi. Et s'il y a des risques cliniques qui sont préoccupants, donc des traces de blessures, une malformation ou du sang, là vous pouvez nous contacter ou contacter un vétérinaire qui interviendra pour faire ce qu'il faut.
Eh bien, nous sommes arrivés au terme de cette émission. C'est bien dommage parce que le sujet mériterait sans doute d'être traité encore plus longuement. J'espère que nous aurons réussi quand même à être le plus complet possible dans le temps qui nous est imparti. Je rappelle l'adresse du site web de l'association Nature en Occitanie, www.natureo.org. Ce numéro de Métropolez-vous était animé par Éric Dupri, à la technique Enzo Basile. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Je vous souhaite à tous un excellent week-end.
Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.